Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je me souviens de la première fois où j'ai fumé un joint et d'avoir cru que j'allais devenir Christiane F., droguée, prostituée. Je me souviens de la première mobilette que j'ai eue à cette époque, une 104 Peugeot, et qu'il fallait pédaler dans les côtes. Je me souviens du premier séjour linguistique outre-Manche où on apprenait plus à rouler des pelles qu'à parler en anglais. Je me souviens de mon premier deuil à 17 ans, une personne de ma famille, et d'avoir observé ma souffrance avec curiosité. Je me souviens de mon premier jean au lycée qui était si serré qu'il fallait s'allonger par terre pour le fermer. Je me souviens de mon premier gros râteau et d'avoir cru mourir de honte et d'humiliation. Je me souviens de la première fois où je suis allée aux puces à Clignancourt et de ce que j'en imaginais avant d'y être allée. Des premières fois qui sont aussi des dernières, des découvertes sans retour, des pertes d'innocence ou d'ignorance, la pénultimité, disait pompeusement Jean Kelevitch, à la fois la première et la dernière fois, forcément. Des rites de passage qui ont imprimé nos existences à jamais et tracent une ligne de partage entre l'avant et l'après. C'est tout de suite, dans les années lycée, nous sommes à Bobigny et à Paris dans le 17e, un lycée public et une institution privée. Elles sont trois lycéennes à raconter trois premières fois, une expérience de la beauté, une de la différence et une de la violence, par Delphine Saltel, évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Moi, à 11 ans, j'avais jamais vu la mer. J'avais jamais fait de voyage. À l'époque, le seul moment où j'avais quitté l'Île-de-France, ou voire le plus loin de l'Île-de-France, c'était quand j'étais partie à la base de loisirs. C'est comme un avant-goût de la mer, on va dire. Donc c'était à Cergy. Donc l'Île-de-France, en soi, c'est comme si c'était une limite. Un jour, je rentre chez moi, je vois ma mère aller avec un journal, c'est le Bonjour Bobigny. En fait, le Bonjour Bobigny, c'est un journal qui est distribué à toute la ville et c'est des informations sur ce qui se passe dans la ville, une actualité. Et donc, je la vois lire et ensuite, je le prends, je lis, je le feuillete. Et à la fin du journal, je vois une annonce, c'est sur une association qui propose d'aller à la mer. Ça s'appelle Fleurs Caraïbes. En fait, le fait que ça soit Fleurs Caraïbes, c'est déjà les Caraïbes, j'imaginais toujours la mer, tout ça, et au soleil, je me suis dit, non, franchement, là, c'est limite un titre accrocheur. Et ensuite, sur l'annonce, il y avait la date, c'est le 21 juin. Il y avait le lieu, le Tréport, en Normandie. Du coup, quand je me suis dit Tréport, j'ai pensé à un petit port, tout ça, et je me suis dit, non, franchement, il faut que je saute sur cette occasion, c'est le moment, si je quitte l'Île-de-France. Le prix, je me dis, franchement, pour nous, on va pas dire on est riche ni pauvre, mais puisque c'était 10 euros les parents et 7 euros les enfants. Dans ma tête, je me suis fait un petit calcul pour moi et mes sœurs, enfin, et ma mère, mais du coup, c'était abordable. Je me suis dit, d'abord, faut demander à ma mère, mais c'est comme si je demandais un truc de ouf. Donc, je vais voir ma mère, je lui dis, ouais, il y a une sortie à la mer, au Tréport, c'est pas des millions. Et après le journal, je vois elle est dans sa tête, ça se voyait à son regard que ça l'intéressait elle aussi. Du coup, ce qui se passe, c'est que je lui dis, ouais, vas-y, appelle tout ça. Je limite, enfin, je la chèbrant un peu. Après, Téphane, elle les appelle. Dans ma tête, je lui dis, mais non, genre, on va aller à la mer, là. Après, ils disent, ouais, il reste des places, tout ça. Je me dis, en plus, il restait quoi? 5 places. Je me dis, mais attends, c'est fait exprès ou quoi? 5 places, c'est nous, enfin, moi, mes sœurs, ma mère et une copine. Ensuite, ils parlent tout ça, ils disent ouais, comment ça va se passer la journée, il y aura une pause, c'est à telle heure, on revient à telle heure. Là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est une vraie démarche, là, c'est sérieux, on va aller à la mer. Donc, on est parti à l'association Fleurs Caraïbes pour s'inscrire à la journée, au voyage. Ensuite, ma mère, elle a donné l'argent. Et je crois que c'était la semaine d'après. On devait aller. On est parti, on a acheté nos affaires pour manger. Ma mère a fait des pastels, tout ça. Là, c'est sérieux, on dirait un voyage. Donc là, on arrive au 21 juin 2013. Le jour du départ, ah non, là, ce jour-là, c'était chaud. 5h du mat, limite, c'était l'armée. Ma mère, elle nous réveille, on mange, on prend nos affaires, on sort, on prend le bus. Ensuite, on a fait quoi? Même pas 10 minutes dans le bus, on arrive, on est allé au rendez-vous du car. On voit personne sur place. Je me dis, attends. Pressé comme une ouf, en mode, c'est comment? Ils vont nous poser un lapin ou quoi? On attend un quart d'heure, 30 minutes, on voit première famille qui arrive. Et on les voit avec des affaires. On se demande si eux, ils allaient aller. Du coup, ils nous répondent oui. Et là, tout de suite, je suis soulagée parce que je vois que on n'est pas les seuls et que là, c'est sérieux. Du coup, là, toutes les familles arrivent. On pose nos bagages. On monte dans le car. Le car, il démarre. Et au fur et à mesure, je vois qu'on quitte la banlieue et Paris. On commence à avoir des chants, tout ça. Puis je dis, wesh, comment ça, des chants? On va à la mer ou on va aux gens? On passe les routes. Mais à chaque fois que je cherchais la mer, je voyais autre chose. Et ensuite, on arrive, quand il y a le panneau, il y a écrit le Tréport. On s'approche, on voit des petits ports. Il y avait école de pilotage de bateau. Enfin, je me suis dit, ah ouais, je ne savais même pas qu'on pouvait apprendre. Il y avait une école de pilotage pour bateau. On avance, la porte s'ouvre et je vois tout droit qu'il y a la mer. Quand je l'ai vu, j'ai rien ressenti. Ça m'a étonné que ça m'a rien fait. En fait, je me suis juste dit, c'est comme à la télé. C'est juste en fait le bruit de la mer. T'as l'impression que ce bruit te dérange, mais c'est un plaisir de l'entendre. C'était des grosses vagues, on dirait, se bagarrer entre elles. C'était la première fois quand même. Donc, je marchais avec mes claquettes. Après, je les ai laissées sur le bord. J'ai touché l'eau, le sable aussi. C'était quelque chose. Et je suis partie dans l'eau, je marchais tout doucement. J'hésitais un peu, mais j'avançais quand même. Déjà, je ne voyais pas le bout de la mer. Du coup, je me dis, non, je ne peux pas. Tu ne vois pas le bout, tu ne sais pas ce qu'il y a. Il y avait des trucs chelous qui touchaient mes pieds là. Déjà, juste au bord, donc je n'allais pas aller au fond. Et il y a ma mère qui disait, ouais, revenez. Donc, je me suis avancée, mais j'avais toujours ce blocage parce que je ne sais pas nager. Et je ne pouvais pas aller plus loin parce que j'ai eu peur de me noyer. Le fait que j'ai peur de l'eau, c'était déjà un blocage, mais du coup, ça s'est accumulé avec le fait que je pense à tous les migrants qui se sont noyés. C'est pour ça que cette peur, elle s'est développée, en fait. Je pensais à toutes les personnes qui quittent leur pays, que ce soit en guerre ou que ce soit pour chercher un travail et qui sont morts dedans. À chaque fois, c'est par la mer Méditerranée, en fait. Du coup, c'est ça qui fait que j'ai encore plus peur.
J'ai passé toute ma primaire dans une école privée qui se trouve dans les beaux quartiers de Paris, dans le Paris Ouest. C'est une belle école dans un immeuble haussmannien, juste à côté d'un grand parc. On avait des uniformes. La plupart des parents de mes amis étaient PDG ou des métiers intellectuels. Enfin. Donc c'était des élèves très privilégiés. Toujours les dernières choses à la mode, parce que même si on avait un uniforme, chaussures de marque, même pour des enfants de 6 ans, c'était les doudounes à la mode, toujours le plus actuel possible. Je me rappelle très vite qu'on était très jugés sur nos vêtements, sur les marques, j'ai des souvenirs très vifs, c'était beaucoup sur le paraître, dès le plus jeune âge, dès l'école primaire en fait. Je sais que j'étais déjà différente parce que je suivais pas vraiment les modes. En fait, parce que mes parents ne m'achetaient pas forcément les habits. Pas pour des problèmes d'argent, mais ils viennent pas de milieux forcément aisés. Et du coup, je pense qu'ils voulaient pas trop nous gâter ou des choses comme ça. Autant, j'ai eu une enfance très confortable, même plus, mais pas forcément des habits de marque ou les choses à la mode. J'ai pas le souvenir de vraiment demander ça. Et du coup, je sais que j'étais différente à ce niveau-là. Puis, un jour, en CE1, j'étais dans la cour de récréation. J'ai dû faire quelque chose qui a déplu un garçon. C'était un garçon, je me rappelle, avec qui je me disputais un peu. C'était un garçon, Stanislas, blond aux yeux bleus. Enfin, je me rappelle, pour moi, c'était un garçon pas forcément gentil, qui tapait un peu les autres élèves, un peu pas harceleur, mais qui aime bien embêter les autres enfants. Et je faisais partie de ces enfants qu'on aimait bien embêter quand j'étais plus jeune. Et du coup, je sais pas ce que j'ai fait pour l'énerver. Mais je le vois juste me regarder, droit dans les yeux, et me dire « sale black ». Et là, c'était comme une gifle en fait, c'est une claque, parce que il m'a juste jeté la vérité à la figure. J'étais noire. Et en fait, jusqu'à mes 7-8 ans, j'avais pas vraiment remarqué que j'étais noire. Dans le sens où j'étais la seule élève noire dans ma classe. Tous mes amis étaient blancs. Enfin, tout mon entourage était blanc. Et même ma famille, mes parents, mes sœurs n'ont pas vraiment d'amis noirs. Mes parents, c'était pas un sujet de discussion du tout. Je n'ai pas eu, en tout cas, de vraies relations avec une autre personne noire. J'ai dû en voir dans la rue. Ou même, quand je partais en vacances, des choses comme ça. J'ai dû voir des personnes noires quand même. Mais je me suis jamais dit, elles sont comme moi. Parce que j'avais pas conscience d'être noire. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que, en plus de toutes les différences qu'il y avait déjà entre mes camarades et moi, ça, c'était, en fait, c'était la différence fondamentale. J'étais noire, alors qu'eux, ils étaient blancs. Je me vois rester sur place et ne pas savoir quoi répondre. Parce que, sale black, il n'y a pas de réponse, c'est vrai. Enfin, je veux dire, je suis noire, je ne peux pas répondre à ça. Du coup, je me vois en tout cas rester sur place, par choc. Je savais que c'était mal ce qu'il faisait. Donc en fait, c'était un peu une double découverte. C'était, ah, je suis noire, et en plus, on peut me dire des choses dessus. Et en plus, c'est pas bien, en fait. Je suis noire et c'est pas bien. Quand je suis rentrée chez moi, j'en ai essayé de parler à ma famille. Je suis allée voir, aujourd'hui, il y a Stanislas qui m'a traité de sale black. J'étais furieuse et je pensais qu'ils allaient partager ma colère. Et en fait, non, pas du tout. Ma mère, pour elle, c'était une petite histoire comme il y en avait tant d'autres, des gamineries en fait. Donc, elle voulait pas forcément entendre plus, ou alors elle m'écoutait, mais pas avec un grand intérêt. C'était pas quelque chose de spécial pour elle. Et mon père est rentré tard le soir, du coup je n'avais pas vraiment parlé. Du coup, je sentais un réel sentiment d'impuissance et d'injustice. Je voyais que les adultes n'en avaient rien à faire, qui m'écoutaient pas forcément. Que pour moi, c'était vraiment quelque chose d'énorme, de haut de mes 7 ans. Fallait que les adultes réagissent, qu'ils aillent voir la directrice. Du coup, comme je voyais que personne m'écoutait, en fait, dès le lendemain, j'ai eu l'idée de faire une pétition. Quand il y avait des injustices, c'était ce que les grandes personnes faisaient, en fait. Ils faisaient des pétitions. Donc, je voulais faire comme les adultes, quelque chose d'assez sérieux, en fait. Du coup, j'allais me balader dans la cour de récréation, demandant « Est-ce que Tanislas a déjà embêté ?» Je me disais « Oui, non », et je cochais. Et du coup, savoir combien d'élèves étaient victimes de ce garçon, je pensais vraiment que j'allais avoir un impact. Voilà, je m'étais fait des grands plans. Et en fait, mon but suprême, c'était en fait si ça se virait. Donc voilà, j'étais toute contente, toute fière avec ma petite liste. Et je vais voir la dame qui gérait les surveillants, qui gérait le primaire. Et je lui dis, excusez-moi, j'ai une feuille avec toutes les personnes que Stanislas a embêtées. Je lui tends et elle me regarde. Et elle fait, ah non, 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 moi je ne fais pas de camp entre les élèves, pas d'injustice entre les élèves. Alors, j'étais choquée parce qu'elle se trompait. C'était pas lui la victime, en fait. C'était moi et c'était les autres élèves qui étaient victimes de lui. J'étais dévastée. Elle a même pas voulu poser les yeux sur cette liste. Donc, c'est juste pour moi, elle s'est retournée, elle a parlé à un autre élève, elle m'a laissé avec ma liste. Moi, abasourdie, choquée, avec ma liste qui n'a servi à rien, au final. Mon père vient me voir le samedi matin. Il vient me voir dans mon lit, il me dit « J'ai reçu un appel de l'école, comme quoi tu fais des pétitions contre les gens. » Du coup, je commence à dire « Oui, c'est Stanislas, tu sais, le garçon, nanana. » Mais Enfin, il me coupe, il veut pas entendre, il fait « Bah non, t'arrêtes de faire des histoires à l'école, tu fais toujours des histoires, tu arrêtes, je veux plus recevoir d'appels de l'école. » Il repart, il rentre juste dans ma chambre pour me dire ça, et il part. Mon père, c'est pas qu'il veut s'effacer, mais c'est qu'il a aussi, il a gagné sa place. Mon père, il a vécu en Guadeloupe dans un HLM, il était d'un milieu très très défavorisé, et c'est vraiment, il a créé sa richesse, il s'est fait vraiment tout seul. Mais il a aussi, du coup, je pense, très vite appris à ne pas faire d'histoire. Et en tant que noir, par exemple, il m'a dit, par exemple, il était à Sciences Po, qu'il devait être 2-3 dans toute la promotion de Sciences Po. Il a appris très vite à ne pas faire d'histoire, à laisser couler. Du coup, c'est un peu aussi ce qu'il essaie de me faire comprendre. De ne pas se faire remarquer. Ou alors, si on se fait remarquer, c'est par extraordinaire aptitude scolaire, des choses comme ça. Et en fait, je pense que dans sa tête, c'est un peu accepte, tais-toi. Et après, tu les battras avec tes notes, par exemple, des choses comme ça. Mais pas forcément en se révoltant. C'est une autre manière de voir les choses. Et en fait, il a quitté la chambre. J'ai rien dit. Et je pense avoir pleuré encore. Je pleurais souvent. Mais aussi, c'est là que j'ai compris qu'en fait, je pouvais vraiment rien faire. J'avais tout essayé. Bah, c'est aussi là où j'ai abandonné. J'ai plus rien fait. Ouais, j'ai tout simplement arrêté de me battre parce que j'ai vu que j'étais pas entendue. Personne ne voulait m'écouter. Personne ne prenait ça au sérieux. Et bah, du coup, j'ai arrêté. Après ça, et même aujourd'hui, si je suis témoin de paroles choquantes, quand quelqu'un traite quelqu'un de pédé, je dirais que je fais une remarque, je peux très vite parler, ouvrir ma bouche. Mais après, par exemple, quand ça me touche personnellement, j'ai encore un peu du mal. Par exemple, on me disait des remarques sur mes cheveux, ils sont donc crépus. On me disait « Oh, Jade, tu pourrais me prêter ton chignon, j'ai plus d'éponge ». On pouvait me toucher les cheveux, tirer un peu sur les tresses, me poser des questions. Là, c'est quelque chose où je me sens mal, je me sens hypocrite. Parce que quand mes amis ou quelques personnes me touchent les cheveux, j'ose pas faire une remarque. Alors que je devrais dire, je suis pas un animal, me touche pas, de quel droit tu fais ça? Ou même gentiment, est-ce que tu peux juste ne pas me toucher les cheveux? Mon amie qui me touche les cheveux, par exemple, elle me dit « Oh, ils sont trop doux !» Enfin, c'est genre « Oh, on dirait un peu un mouton !» Enfin, c'est juste, on l'a jamais dit « Ah, faut pas toucher les cheveux des noirs !» C'est-à-dire, c'est pas forcément adapté. Donc, en fait, la chose bien et logique, ce serait que juste que je l'éduque, que je lui dise « Ah bah, évite, ça c'est pas forcément bien !» Mais bah, j'arrive tout simplement pas, j'ai pas envie de lui faire de mal, j'ai pas envie qu'elle sente mal, j'ai juste pas envie d'être chiante. Enfin, c'est un peu ce qu'on m'avait fait comprendre quand j'étais jeune, que j'exagérais, que c'était pas assez grave que ça. Et en fait, j'aimerais pouvoir me défendre avec autant d'aisance que je défends les autres. Mais j'ai un blocage qui fait que non, je n'ose plus l'ouvrir quand c'est pour moi.
J'ai deux sœurs. Une avec qui j'ai 5 ans d'écart et une autre plus petite avec qui j'ai 1 an d'écart. Toutes les trois, on est nées en France et mes parents viennent de Chine. Je m'en souviens quand j'étais en maternelle jusqu'en primaire avec ma grande sœur. On s'entendait plutôt bien, on rigolait bien ensemble. Quand il n'y avait pas mes parents, elle nous faisait à manger pour moi et ma petite sœur. Mais après, plus je grandissais, moins on s'entendait, on n'était plus dans le même délire. Elle jouait beaucoup à l'ordinateur, elle sortait pas beaucoup, elle restait très souvent à la maison pour jouer à des jeux en ligne. Elle avait tendance à nous donner des ordres, fais ci, fais ça, parce qu'elle jouait, du coup, elle n'avait pas envie de se lever. Et du coup, elle se servait de nous, elle nous demandait de chercher quelque chose à manger, de faire la vaisselle, des choses comme ça, pour, à sa place, pour qu'elle, en entendant, elle joue. Elle mangeait des grosses quantités pour son âge. Du coup, elle était un peu ronde. On a grandi ensemble. On s'entendait pas mal, mais pas super bien non plus. On n'était pas super complices. Si on se voyait, on se parlait. Mais sinon, on va pas chercher à se parler à tout prix. Comme si on était vite à l'une pour l'autre. Juste, on a un truc à dire, on va dire. S'il n'y a rien à dire, on ne sait rien. On se disputait de temps en temps. C'était des disputes de 2 jours, voire une semaine. C'était des histoires de gamines. Vraiment, c'est bidon. En mode, je veux quelque chose, elle le veut aussi, mais moi je veux pas le céder. Du coup, ça se dispute. Toutes les deux, on était dessus, du coup, toutes les deux, on veut pas céder. Et après, ça finit par une vague d'insultes pour des choses débiles. Du coup, au fil du temps, ça s'accumulait. Jusqu'à un jour, on va dire, ça a pété. J'avais 12 ans, on était tous les deux à la maison, il y avait aussi ma petite sœur. Mes parents étaient en train de travailler, j'étais dans le salon en train d'utiliser l'ordinateur. Elle vient, elle me dit « bouge, je vais utiliser l'ordinateur ». J'ai dit « non, je suis en train d'utiliser ». Du coup, soit t'attends, soit tu te débrouilles, si t'es pas contente c'est la même, je m'en fiche clairement. Et après elle a commencé à s'insulter. Sale pute, sale connasse. Va sucer les parents, va te faire enculer, nique ta race, plein de choses comme ça. Le truc a commencé à monter. Et je sais pas trop comment ça a commencé, qui a donné le premier coup. Après, c'est parti. Au début, on était debout. On a commencé à se donner des coups. Je lui ai tapé au visage. Et après, vu que c'est une grosse patate, elle s'est assise sur mon ventre. Elle était là en train de m'écraser avec tout son poids. J'avais du mal à respirer. Elle devait peser 70-80 kilos. Elle était là en train de me mettre des claques. Du coup, j'essayais de la mordre. Et j'enfonçais mes ongles dans ses bras. J'avais la rage. Il n'y avait même pas la douleur des coups. Vraiment, je ne sentais aucun coup. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui tapait sur ma joue. Mais il n'y avait aucune douleur, vraiment. Je pensais qu'à une seule chose, c'était la frapper, vraiment. De lui mettre le plus de coups possible pour évacuer toute ma haine que j'ai accumulée. Et du coup, on a continué à se battre jusqu'à un moment où on a entendu la porte sonner. C'était des voisins du dessous, je sais plus, qui étaient venus nous demander « Oui, il se passe quoi ?» De temps, on entend des cris, des bruits assez forts et tout. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma sœur, elle s'est levée. Elle a commencé à dire « Non, mais il s'est rien passé, vous inquiétez pas. » Et du coup, ça a arrêté la bagarre. On avait les cheveux n'importe comment. Moi, j'avais du sang sur mon haut parce que j'avais saigné du nez. Et elle avait des marques sur le bras de mes ongles parce que je les ai enfoncées jusqu'au sang. Et après, du coup, elle est partie dans la cuisine. Moi, clairement, je me suis dit « C'est impossible que je reste plus longtemps dans une pièce avec elle. » J'ai décidé de partir de ma maison. On n'en était jamais venu au coup. C'était la première fois. Après cette bagarre, pour nous deux, c'était vraiment impensable qu'on se reparle. Même si nos parents, nos grands-parents et nos tantes essayent de nous réconcilier, vraiment pour nous deux, c'est impensable de se reparler. Et donc ça fait à peu près 3 ans qu'on se reparle plus. On s'ignore et on s'adresse vraiment jamais la parole. Vraiment, il n'y a aucune interaction entre nous deux. On fait notre vie, elle fait sa vie. Elle passe, je passe, c'est tout. C'est pas du tout parce que c'est ma sœur qu'elle est indispensable dans ma vie. Je peux très bien survivre sans elle. Des fois, j'entends ma mère lui dire « Ouais, et tout, reparle à ta sœur, c'est ta petite sœur, vous êtes de la même famille, vous êtes sœur, c'est pas normal dans une famille que deux sœurs ne se parlent pas, machin, machin. » Je pense pas que ma mère en souffre, mais je pense que c'est plus par rapport au regard des gens, dans le sens où c'est considéré comme pas normal que deux sœurs ne se parlent plus du tout. Du coup, ma mère, on peut dire qu'elle a peur du regard des gens. Si c'était une question de vie ou de mort, ou en mode je dois donner mon rein pour qu'elle survive, je pense que juste vis-à-vis de mes parents, je le ferais, mais pas pour elle. I'm jealous of the blue jeans that you're wearing. So tight. I'm jealous of the moon that keeps on staring.
So lock the door and turn out the night. I want you all to myself. We don't need anyone else. Let our bodies do the talking. Let our shadows paint the wall. I want you here in my arms. We'll hide away in the dark. Slip your hand in my back pocket. Go and let your long hair fall. I want you all to myself, to myself. I'm jealous of the song that you've been singing. Rolling off your lips. It might be selfish, but I'm thinking I don't need nothing between you leaning for another kiss.
C'était Les années lycée, troisième épisode, L'âge des premières fois, un reportage de Delphine Saltel réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Aude Paul, à Leslie Riowal, aux élèves et aux professeurs des lycées qui nous ont accueillis aimablement. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Nino Lima, notre stagiaire.